Merci beaucoup. Je propose qu'on se retrouve en fin de matinée pour échanger davantage. Je pense que les deux interventions sont complémentaires et je suis heureux de présenter Morad Montazami, qui est doctorant au sein de l'École des hautes études en sciences sociales, en particulier au sein du Centre d'histoire et de théorie des arts, où il mène une recherche sur le tournant ethnographique de l'art contemporain. Il est aussi lauréat d'une bourse doctorale au musée du Quai Branly, au sein duquel il a la possibilité de creuser davantage cette recherche. Morad Montazami a été aussi responsable de la publication, l'ouvrage collectif intitulé Face au réel, éthique de la forme dans l'art contemporain, édité entre, je crois que c'est une coédition EHESS et École nationale des beaux-arts de Lyon.
EHESS, Beaux-Arts de Lyon.
Et il collabore à la revue Art Presse et dirige la revue Zaman, qui s'intéresse au regard croisé entre Occident et Orient.
Tout à fait.
Je ne sais pas ce que signifie Zaman comme titre.
Zaman, ça signifie temps ou époque en persan.
D'accord. Merci.
Merci pour la présentation. Et merci à tous les organisateurs pour cette invitation. C'est toujours un privilège de pouvoir s'exprimer devant un auditoire attentif et nombreux. Et c'est aussi, je le dis, un plaisir de parler après Philippe-Alain Michaud, dont les travaux ont beaucoup compté dans ma formation d'historien de l'art en herbe, puisque, pour le dire très simplement, je n'aurais pas d'ambition plus grande que réfléchir l'art contemporain d'un point de vue warburgien, pour le dire très vite. Mais puisque aujourd'hui je me proposais de décentrer la question de l'histoire de l'art sur l'ethnographie. Et je vais vous expliquer comment. Encore une fois, sur cette histoire d'ethnographie, Warburg reste le jalon indispensable. Alors, on a souvent entendu parler de l'exposition comme médium. Ma proposition sera d'englober cette proposition, l'exposition comme médium, dans une visée plus large de l'exposition comme rapport au savoir et aux formes de ce savoir, ou pour le dire d'un mot plus précis, les dispositions du savoir, à prendre au double sens de sa disponibilité et par conséquent de sa mise en forme. Donc voilà énoncé simplement mon sujet. Il se trouve que les artistes contemporains œuvrent beaucoup en la matière, cette question de la disposition du savoir, donc notamment sous sa forme exhibée, sous sa forme muséographiée, notamment quand le musée ou la collection, ce dont je vais parler plus précisément, devient l'objet même du travail artistique et non plus le cadre qui l'accueille traditionnellement. Donc je vais essayer de montrer certains usages de la collection chez des artistes qu'on peut considérer à la fois comme ethnographe et comme collectionneur. Mais je dois préciser aussi le sens que je donne à l'appellation ethnographique, qui ne se laisse pas circonscrire facilement. Elle désigne d'abord les opérations relevant du métier d'ethnographe, celles du terrain, de l'observation participante, de l'immersion dans une communauté, de la recherche et la collecte de données, des échanges symboliques qui en résultent et de la description des faits culturels. Vous m'entendez bien? Sans écho, n'est-ce pas? Parce que moi, j'entends ma voix en double, mais vous, non. Ça me rassure. Alors, les opérations relatives à la collection ne constituerait qu'une partie de ce que je viens de lister comme les tâches incombant au métier d'ethnographe. Mais ce serait là peut-être celle des tâches qui peut nous mettre en conversation de manière privilégiée avec l'histoire de l'art, celle effectivement de disposer les données récoltées, disposer ou exhiber, comme j'ai dit. Mais le sens de l'appellation ethnographique doit aussi se comprendre dans un autre versant, celui d'une vision du monde en soi, un rapport ethnographique au monde. Ou pour reprendre les termes de James Clifford, qui est la grande figure intellectuelle de cette ethnographie élargie, et donc notamment élargie vers l'histoire de l'art et les représentations, une collection de la culture, c'est l'expression de James Clifford, voire même un collage de la culture. Je cite James Clifford. Écrire des ethnographies sur le modèle du collage reviendrait à éviter de décrire des cultures comme des ensembles organiques ou comme des mondes réalistes unifiés. L'ethnographie comme collage rendrait manifeste les procédés constructivistes du savoir ethnographique. Ce serait un assemblage contenant d'autres voies que celles de l'ethnographe, ainsi que des exemples de données trouvées, pas totalement intégrées à l'interprétation dominante du travail. Fin de citation. Ainsi étoffée notre conception de la collection, prenons un premier exemple qui me servira d'entrée en matière et qui vaut pour sa célébrité. Donc, se déclarant directeur d'un musée d'art moderne, et plus particulièrement de son département des aigles, qu'il ouvre à Bruxelles entre 1968 et 1972, Marcel Broutars réalise un tour de force mémorable dans la longue partie que se sont jouées depuis les années 60, l'artiste et le musée. Il s'agit d'une collection d'objets et matériaux normalement employés pour les accrochages d'expositions et aussi pour les expositions elles-mêmes, comme des lampes, des caisses de stockage, etc., mais aussi tout un ensemble de vitrines et de mobilier muséographique dans lesquels il entreposera à diverses occasions et sous diverses modalités des aigles. À n'en plus finir, sous toutes les coutures et factures, des aigles en taxidermie, en gravure, aigles-objets, aigles-documents, des aigles comme s'il en pleuvait. Ici, vous voyez une de ses plus belles manifestations en 1972 à Düsseldorf. Comme l'analyse brillamment Rosalind Krauss, ce triomphe ô combien ironique de l'aigle annonçait, je cite, « non pas la fin de l'art, puisque ça pouvait y ressembler, mais plutôt la fin des arts individualistes en tant que liés à un médium autonome ». Et Rosalind Krauss précise « en jouant avec la forme que cette perte d'autonomie pourrait prendre. » Ça, c'est aussi un repère très important dans cette réflexion, la perte d'autonomie par rapport à un médium, par rapport au fait d'être un artiste, sculpteur, peintre, etc. Broutars procède à une réévaluation de l'institution muséale en révélant un clivage fondamental sur lequel les musées traditionnellement fondent leur pouvoir. C'est le clivage du savoir et de son exhibition, ou sa disposition, comme j'ai dit, voir, savoir, mais le mot anglais exhibition, exhibition, suggère une dimension fétichiste bien utile pour analyser l'institution du musée. Car en effet, comment penser l'idée même de collection, que ce soit la collection de tasses à café de ma grand-mère ou celle du Louvre, c'est ça qui est intéressant, sinon à partir du fétichisme. Et que l'on repense au célèbre texte de Marx, Le fétichisme de la marchandise, il apparaîtra que le pouvoir de l'institution muséale consiste aussi à sublimer dans l'œuvre d'art son caractère de marchandise. On s'en rend évidemment plus compte lorsqu'il y a par exemple des vols dans les musées. Et c'est parce que l'analyse en termes de fétiche, terme ethnographique s'il en est, peut nous aider à déconstruire les codes muséologiques que Broutars délire sur un motif, une image, mais répétitive et symptomale, délirante, justement, les aigles. J'attire par ici l'attention sur le phénomène dont il serait le précurseur et que Rosalind Krauss appelle donc post-médium. C'est la condition de l'artiste contemporain, je crois, encore aujourd'hui, et cette condition est concomitante avec l'émergence de l'artiste collectionneur ou flâneur, pour le dire avec Walter Benjamin. Passons maintenant à un exemple plus proche de nous dans le temps. Il s'agit de Francis Alice, un compatriote belge de Marcel Broutars, qui lui aussi a rassemblé une collection intitulée Fabiola. Fabiola est une figure peinte par Jean-Jacques Henner, symboliste du XIXe siècle, la figure d'une pénitente qui aurait vécu au IVe siècle, connue pour ses mauvaises mœurs, dont l'histoire est racontée par Saint Jérôme, et qui s'était notamment rachetée en fondant un hôpital pour pauvres, pour les pauvres à Rome. Donc bref, c'est un tableau qui date de 1885, dont on a perdu la trace, du moins la trace physique. Francis Alice, à défaut de retrouver l'original, s'est employé depuis le début des années 90 à collecter à travers l'Amérique du Sud et l'Europe de l'Ouest des répliques artisanales et ou amateurs, à ne pas considérer comme des faux, car l'artiste les a choisis en conséquence, mais de pures et simples répliques, voire reliques, du tableau original. Il a exclu celles qui auraient pu être produites pour être des faux. Ce corpus parcourt surtout l'espace de l'objet trouvé, un peu kitsch, du marché aux puces. Francis Alice a donc tapissé les murs de plusieurs musées avec sa collection et publié en 2008 un catalogue contenant donc les un peu moins de 300 Fabiola qu'il a réussi à récolter. Et d'ailleurs, quand il expose dans des musées, comme ici au LACMA de Los Angeles ou alors à la Société hispanique de New York, il a une manière très subtile de s'immiscer, ou en tout cas de faire que la salle ou les deux salles qui vont être occupées par la Fabiola entrent en conversation avec les collections existantes en présence du musée où il s'invite. Voici une page du catalogue qui contient les 300 Fabiola. Francis Alice revêt dans la panoplie ethnographique les habits de l'enquêteur. Dans ce catalogue, chaque Fabiola est archivée selon ses dimensions, sa datation quand elle existe, son support ou son médium, son état physique, sa provenance, et Alice note non seulement d'où elle provient, mais combien il l'a payée et dans quelles conditions. Enfin, on peut également prendre connaissance de toutes les annotations figurant au dos ou au coin du tableau. Donc vous voyez que parler d'enquête, c'est vraiment peu dire. Par rapport à Broutars, cependant, où on avait les aigles au pluriel, le projet d'Alice s'intitule Fabiola au singulier, ce qui augmente évidemment le quotient du symptôme fétichiste. On pourrait même dire que l'accumulation n'est que la fonction de l'épuisement à vouloir atteindre une origine qu'on célèbre, mais qu'on n'atteint pas. Exactement comme quand vous allez regarder la Joconde au Louvre et que vous la percevez évidemment beaucoup plus à travers les centaines d'images qui se projettent sur les appareils photo en train de la photographier qu'elle-même, alors qu'elle se tient évidemment devant vous. Mais la beauté du geste, cependant, c'est que du même diagnostic que Walter Benjamin à son époque, sur la perte de l'aura et ce qu'il appelait la liquidation de l'œuvre d'art, Francis Alice nous montre néanmoins l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité manuelle et non plus technique, puisqu'il a aussi pris soin de distinguer et de garder uniquement les répliques faites main. D'où une sensibilité particulière aux notions de savoir-faire, dont les Fabiola nous montrent une cartographie vertigineuse, celle d'artisanat et en définitive celle d'art populaire, savamment réintroduit par Alice dans les différents musées et centres d'art où il a exposé ses Fabiola, et la collection comporte des Fabiola sur toile, sur bois, des Fabiola en point de croix, des Fabiola sur boîte, sur céramique, sur assiette, pendentif, etc., etc. Ça n'en finit plus. On peut aisément tenter la comparaison avec le type de débat qui ont accompagné l'ouverture du musée du Quai Branly, regroupement du musée de l'homme et du musée des colonies, comme vous savez. Le plus grand désaccord entre les anthropologues a porté sur la vocation esthétique ou pas des objets exposés, ce qui s'accompagnerait soit d'un grand appareillage pédagogique, c'est-à-dire expliquer la fonction des objets, mais encore bien plus que leur fonction, restituer tout le paysage ethnographique présidant à l'émergence de ces objets et de leur collecte, puisqu'il a bien fallu aller les chercher à une époque ou à une autre pour ensuite les exposer chez nous, ou alors de donner le privilège à leur esthétisme et l'accentuer par des choix de scénographie, des lumières tamisées, voire des effets de spectacularisation, hein, faire surgir les masques par des lumières, etc., etc. Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une forme de compromis, hein, et que le Quai Branly, par exemple, semble plutôt rechercher le juste milieu entre ces deux tendances. Mais en tous les cas, le travail de Francis Alice a à voir avec ce débat sur la légitimité esthétique des objets et la frontière entre artefacts, objets d'art et œuvres d'art. Il apporte aussi sa contribution en montrant la difficulté d'inscrire les objets dans une histoire sous la contrainte d'une datation approximative. Beaucoup de Fabiola sont datés de manière très floue, et c'est le cas de beaucoup d'objets dans les musées d'ethnographie. Donc, à défaut de pouvoir en retracer une histoire, il en offre au moins une ethnographie, justement, c'est-à-dire un collage varié de savoir-faire humains qui conduisent à recouvrir la perte de l'origine. Fabiola faisant irruption dans les débats entourant le musée d'ethnographie, elle n'en suit cependant pas le chemin muséologique, puisqu'elle est davantage comme une réminiscence des salons 19e-istes, où les tableaux divers tapissaient les murs d'exposition, que le spectateur ne saisissait plus vraiment en tant que tel, en tant qu'œuvre autonome justement, mais plutôt comme un panorama ou une foule de peintures qui faisait justement face à l'homme des foules décrit par Edgar Poe. Un modèle qu'on pourrait nommer de la distraction, disposition de l'espace à recouvrir plutôt qu'à partitionner, engageant donc un regard flâneur et non maîtrisé, et non maîtrisable. Vous voyez ici avec Daumier le tapissage de peinture qui n'arrangeait pas les choses les jours où l'on ne paye pas avec 25 degrés de chaleur. C'est le titre de Daumier. C'est donc plutôt avec ce modèle que joue Francis Alice dans les accrochages ou les displays de Fabiola, modèle qui correspond à l'état de conscience imaginaire suscité traditionnellement par la curiosité dans ses cabinets, syndrome auquel n'échappe bien sûr pas la muséographie ethnographique et les arts extra-occidentaux. C'est le modèle de l'émergence du capitalisme industriel où s'accentue la frontière objet-œuvre-marchandise, mais aussi de son double refoulé qui est le marché aux puces. D'ailleurs, on peut voir le display Fabiola comme une version ordonnée mais symptomale du marché aux puces. Je vous renvoie au Nadja de André Breton et de cette expérience où, donc justement au marché aux puces, les objets perdent leur sens et en même temps retrouvent du sens dans la rencontre avec notre curiosité qui va jusqu'à leur conférer une légitimité esthétique. On pourrait dire encore que Francis Alice, par le biais de la collection ethnographique, fait aussi une ethnographie du musée moderne et de ce regard distrait ou curieux, ce qui implique dans son cas une méthodologie assumée qui est celle d'archiver et d'exhiber la collection, mais sans classification apparente. Donc d'une certaine manière, sans aller trop loin dans l'interprétation, et presque même sans aller dans l'interprétation, de par l'absence de classification. Exhiber sans classer. Je voudrais au passage montrer une installation d'une autre artiste collectionneuse, mais d'un genre plus particulier, Idessa Hendeles, dont vous voyez ici l'œuvre The Teddy Bear Project, formalisée en 2002, une collection vertigineuse qu'elle a réussi à rassembler de photographies amateurs, souvent des vieilles photos de famille noires et blancs, sur lesquelles apparaissent toujours ici ou là un ours en peluche parmi les humains. Comme ici. L'installation que je vous montre ici était à la Haus der Kunst de Berlin en 2003 et elle résonne logiquement à la suite de Brutars et de Francis Alice, mais elle nous permet de mieux ressaisir un point essentiel de la gestion d'espace dans le modèle ethnographique. En effet, nous pouvons prendre des exemples précis à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui nous montrent la tendance de ce modèle à la totalisation ou à l'épuisement de l'espace, immergeant et surplombant le visiteur dans un dispositif qui lui procure une illusion panoptique, c'est-à-dire de pouvoir tout embrasser en même temps d'un seul regard. Ici, vous voyez le Pitt Rivers Museum dans les années 1880. En juxtaposition des vitrines, les objets continuent de courir sur toute la surface des murs, aussi haut soit-il. Et ici, le Horniman Museum de Londres, où, comme vous voyez, il n'y avait pas d'autre parcours empruntable que celui délimité par les imposantes vitrines. On est dans un espace différent de celui des salons et du regard distrait, curieux ou flâneur, ce qui dénote à la fois une différence d'échelle, mais aussi une différence de disposition. L'espace lui-même est entièrement rempli, et plus seulement les murs. On n'a donc plus cet espace de socialisation qu'étaient les salons et où les petites gens et la bourgeoisie pouvaient se rencontrer pour polémiquer autour des nouvelles peintures. Dans le dispositif ethnographique d'exposition, l'expérience de l'espace et de la vision est largement individualisée ou intériorisée par son emprise totalisante. Le regard qui est construit ici tient sans doute plus du regard miniaturisé et miniaturisant que semble rechercher Idessa Hendeles en nous mettant le nez sur chaque photo pour en débusquer l'ours en peluche qui y figure et nous décourager par avance de tous les repérer. Donc mon intuition, si vous voulez, pour vous l'expliquer rapidement sur cette affaire d'exposition, c'est qu'en regardant l'histoire des expositions ethnographiques, on remarque une tendance à la disparition progressive des vitrines, comme ici avec l'exposition Mexican Arts de 1930 au MoMA de New York, organisée par René d'Arnoncourt, qui était d'ailleurs un marchand avant d'être un commissaire d'expo. Ici, vous voyez qu'on n'a évidemment pas renié le choix de la profusion et de l'immersion, mais dans le même temps, l'absence des vitrines marque un pas en arrière sur la question du dispositif. Le fait que la vitrine partitionne l'espace et démultiplie ou biaise notre vision des objets en les réfractant les uns sur les autres. Ce pouvoir-là de la vitrine, vous pouvez vraiment le voir au musée du Quai Branly aujourd'hui. Enfin, je veux dire, la vitrine est présente aujourd'hui. Donc, quand je regarde ces photographies où malgré tout les vitrines disparaissent, c'est plutôt comme si on voulait restituer aux visiteurs une part de libre arbitre, et puis aussi moins le tenir à distance qu'avec la vitrine, de sorte que la rencontre dans l'altérité ou dans l'étrangeté est encouragée. Le retour du marché aux puces en quelque sorte. Ce pas de recul par rapport au dispositif de la vitrine, ce serait donc une manière de verser plus largement dans le display. Mais dans les expositions ethnographiques, comme j'étais en train de le dire, les vitrines n'ont pas disparu, et elles n'ont jamais totalement disparu. Il faudrait parler plutôt d'un va-et-vient dans l'histoire de l'exposition. Et je crois qu'il est intéressant d'observer ce va-et-vient, notamment aujourd'hui avec le grand retour en force des vitrines chez les artistes contemporains. On pourrait faire la liste des artistes contemporains qui ont contribué à ce retour de la vitrine. Marc Dionne, Christian Boltanski, Jimmy Durham, Sophie Kahl, René Green, Lan Tuazon, Martine Parr, et la liste pourrait continuer encore très longtemps. Je vais boire une goutte. Changeons à présent d'exemple avec la Folk Archive de Jeremy Deller, artiste anglais, co-signé par son collègue Alan Kane, prenant forme dans ce livre. Il s'est agi pour eux durant 7 années de collecter par les moyens mêmes de l'archive, c'est-à-dire la photo, mais aussi une belle collection d'artefacts réels, des objets, des signes, des symboles et des icônes d'un art populaire contemporain à travers toute la Grande-Bretagne, et attirer l'attention sur la créativité de ceux qu'on appelle les « outsiders », ou disons en français les « marginaux » ou les « sans-voix », pour en exposer ni plus ni moins qu'un builder atlas warburgien, un atlas d'images warburgien. Je dirais d'abord que la Folk Archive est intéressante, au plan ethnographique, vous allez voir des exemples, mais aussi à sa manière de jouer sur les limites entre collection et archives. Par exemple, sur cette page, entre la jolie maison brodée et la maison de briques et de broc, mais réelle. Est-ce le même type d'enregistrement? Ce sont deux photos, certes, mais ont-elles le même statut d'archive? En tous les cas, on peut parler d'une mise à niveau, à l'échelle même de la collection ou de son musée imaginaire. Et contrairement à Francis Alice, à l'échelle taxinomique des catégories et des classifications élaborées par Jeremy Deller. On va donc traverser toutes les données rassemblées par l'artiste ethnographe, en passant par les rituels carnavalesques et festifs, les accoutrements et déguisements arborés pour l'occasion, la fabrication artisanale de ces déguisements ou de ces masques, en présentant bien sûr leurs auteurs, donc la manière dont Jeremy Deller met lui-même en crise son propre statut d'auteur dans la présentation d'autres auteurs, d'autres artisans, d'autres fabricants, les épouvantails ou les totems zoomorphes également investis d'un pouvoir rituel, une ethnographie culinaire des gâteaux les plus insolites et les plus appétissants, comme ici avec le Pudding Festival. Les cérémonies populaires datant du XVIIe siècle, comme le porté de tonneaux enflammés à travers toute la ville, mais aussi la culture militante et la dimension micropolitique de la société britannique, qui va du front de libération de l'Afrique aux prostituées en grève, en passant par les défenseurs de la chasse. Voici donc la volonté d'exposer à notre connaissance des pratiques rituelles, des figures symboliques, voire des icônes, et de les relier entre elles de manière qui nous fasse relativiser complètement notre conception de la culture, du moins la culture autorisée ou officielle. Enfin, les classifications très intéressantes sur les transformations du corps avec les concours de grimaces, mais aussi les tatouages autoproduits de prisonniers, dont vous voyez ici les pistolets à tatouages de fortune, qui étaient exposés au palais de Tokyo dans des vitrines. Enfin, voyons une page concernant les Ah, j'ai pas pris la page où on voit les documents. Excusez-moi, peu importe. En tout cas, on retrouve aussi un ensemble de tracts, de prospectus, de messages à caractère public qui sont reproduits dans le livre de la Folk Archive. Et là, on voit encore plus une espèce de mise à niveau entre les documents trouvés dans la rue et des documents trouvés sur Internet. Donc ça aussi, cette liberté-là, elle est de l'ordre du display, comme je dis depuis le début, et c'est ce qui fait la force de ce travail. Puis vient la sortie d'archives dans sa recollection muséographique réelle, et donc il s'agissait d'un véritable display ethnographique à l'échelle du palais de Tokyo entier. C'était il y a 2 ans, en 2008, et donc malheureusement là aussi j'aurais aimé vous apporter des prises de vue de la redisposition de la Folk Archive à l'intérieur du palais de Tokyo. C'était vraiment très impressionnant, mais je n'ai pas pu mettre en forme les prises de vue que j'avais. Ici, on devine quelques vitrines derrière cet épouvantail totem qui a lui aussi investi d'une fonction rituelle précise. Et puis les banderoles et les bannières installées au plafond qui sont l'œuvre d'un artisan qui n'est pas Jérémy Deller, mais dont il présente les artefacts, avec toujours cette frontière entre justement artefacts, objets d'art, œuvres d'art. La qualité du display muséographique est alors de maintenir l'hétérogénéité du display imprimé, mais surtout d'en déployer toute la tension, celle que je viens de dire, entre les objets et leur représentation ou leur reproductibilité, entre la portée esthétique de ces objets et leur fonction rituelle ou mythique. Le display ou le collage culturel, pour le dire avec James Clifford, cherche de conserver la force des étrangetés et des singularités qu'on ne laisse pas mourir dans des cabinets de curiosité postmodernes, mais qu'on va déployer à travers un catalogage et des classifications ethnographiques. Mais la force du display, sa mise à niveau des hétérogénéités, son plan d'immanence, n'empêche pas de noter une absence d'articulation entre différents régimes de visibilité et de lisibilité. On en revient à des questions warburgiennes, l'absence de connexion articulée entre des régimes de production qui répondent à des médiums différents, des langages différents, des techniques différentes. Autant d'articulations qui nous ramènent vers le dispositif. Pour être schématique, je dirais qu'il y a toujours du display dans un dispositif, mais que le display n'aboutit pas toujours dans un dispositif. Une vitrine est toujours un display, mais elle peut devenir un dispositif. Tâchons de nous en convaincre avec une photographie de Doineau de 1948 et sa vitrine d'antiquaire, mais qu'on pourrait aussi bien considérer comme un musée éphémère. En quoi cette vitrine, donc ce display, aboutit dans un dispositif? Nous voyons ce couple, bras dessus, bras dessous, lié physiquement, mais totalement séparé dans l'attention, puisque elle lui parle et lui feint de l'écouter pour diriger son regard oblique vers la peinture de nu qui jouxte la peinture de dos pour nous, celle commentée par sa femme, qui n'a aucune idée du dispositif en train de s'installer. Car le regard de cet homme n'a rien de discret ou de curieux, aux yeux de sa femme peut-être si elle se retourne. Mais lui, il sait très bien ce qu'il veut voir, question du savoir et de son exhibition. Et surtout, il sait très bien comment prendre place face à la vitrine et au corps de sa femme pour jouir l'instant nécessaire de son réel objet. Il sait très bien comment jouir de la partition spatiale, comment jouir du vu et de l'invu qui est disposé ici et que Doineau révèle. En sorte que la vitrine ne répond plus seulement au titre de la présentation transparente et du libre arbitre propre au display, mais plutôt de la stratégie exhibitionniste propre au dispositif. Ce que le dispositif exhibe, ce n'est pas l'objet du désir fétichiste comme dans la collection cumulative, mais pour le dire avec Gilles Deleuze, ce sont des lignes de visibilité, d'énonciation, des lignes de force, des lignes de subjectivation, des lignes de fêlure, de fissure, de fracture, dont les unes en suscitent d'autres. Fin de citation. Et en effet, je crois que typiquement, je viens de vous décrire une ligne sur 10, ou peut-être même plus, dans la photo de Doineau, sans doute la plus évidente. Je voudrais à présent montrer 2 œuvres d'artistes contemporains qui éclairent éloquemment la particularité du dispositif, même si j'ai passé plus de temps aujourd'hui sur le display, mais c'est là où commençait ma recherche. D'abord, l'installation de l'artiste Philippe Bazin, Noir Silence, à la galerie Anne Barrault à Paris en 2007. Elle comprend un ensemble de 7 moniteurs vidéo diffusant chacun un témoignage différent recueilli auprès d'habitants de Dunkerque issus de l'immigration comorienne. Philippe Bazin a recueilli leur expérience du racisme et de la discrimination au quotidien. Chacun raconte une histoire intime, anecdote personnelle, que ce soit en milieu scolaire ou dans une recherche de logement, rien que du banal en somme. Quasiment aucun montage dans les entretiens, que je ne peux pas vous faire écouter malheureusement, un flot de paroles d'une dizaine de minutes chacun, comme si la caméra était un dictaphone à images, de la rigueur ethnographique privilégiant toujours la description à l'interprétation. À force de déplacements et de sauts d'attention, le spectateur est appelé d'un témoignage à l'autre, d'un écran à l'autre, à produire son propre montage d'énoncé, à travers une salle d'archives qui est accessoirement une galerie d'art. Mais pour une autre part du dispositif composant Noir Silence, des photographies de moulage ethnique du XIXe siècle sont accrochées au mur de la galerie, qui sont des photographies de Philippe Bazin. En sus des figures vocales, racontant l'exclusion aux contemporains, les secondes, figures du masque silencieux, estampillent l'asservissement des peuples colonisés hier, sur lesquels on pratiquait ces moulages à des fins de classification et d'archives raciales. La figure est ici mosaïquée entre deux régimes de reproduction et d'historicité hétérogène, clivée entre langue vivante et forme fossile, corporéité et désincarnation, indices et documents. Le regard du spectateur peut difficilement se distraire, mais cherche plutôt sa place. En toute stratégie interprétative, il se trouve dans un dispositif. La deuxième œuvre qui me semble... Est-ce qu'il me reste 5 minutes ? Oui. La deuxième œuvre qui me semble éloquente pour parler du dispositif, donc du dispositif de la collection et non plus du display de la collection, qui est d'une radicale simplicité, encore plus que Philippe Bazin, ce sont les objets de grève de Jean-Luc Moulin. Objets produits en petite série par des ouvriers avec leurs outils de travail donc, et à l'occasion de conflits sociaux qui servent à populariser et financer la grève. C'est un peu une sorte de merchandising de la grève, si on veut. Ils sont collectés et photographiés par Jean-Luc Moulin dès les années 80 et en théorie jusqu'à aujourd'hui, même si Moulin avoue qu'il en trouve beaucoup moins. Cette collection lui permet de déployer, sous forme imaginaire ou iconographique, on pourrait parler d'un musée imaginaire de la grève, une ethnographie de la grève, de la culture populaire et des savoir-faire artisanaux qui entrent en jeu dans ce moment de rupture avec le temps social et le temps du travail. Les objets sont donc la condensation, mais pas seulement symbolique, vraiment ethnographique justement, de ce qui est surproduit dans un moment de non-productivité et de ce qui est transgressé dans un espace de normes. Transgresser la typographie, transgresser la marque, transgresser la forme de l'objet, etc. Par le double geste de la collecte et de l'archivage photographique, qui constitue en même temps leur exhibition, Moulin joue sur la frontière de l'artefact et de l'œuvre d'art dont on a déjà parlé. Et je dirais que le tout du dispositif et de maintenir à travers cette tension, artefact, œuvre d'art, la résistance des objets de grève à leur devenir ready-made. Pour ça, il a fallu en quelque sorte que l'artiste ne fasse pas seulement que photographier, reproduire, mais qu'il s'approprie, collecte, archive, c'est-à-dire qu'il opère un partage clair et engagé, un partage territorialisé entre le monde de l'objet et le monde de la représentation, où l'objet va s'abîmer dans son devenir image ou son devenir souvenir, et ainsi ménager l'espace disponible à son devenir document. J'en veux pour preuve le fait qu'en 2000 et 2003, l'artiste a déposé les objets de grève, les objets réels, aux Archives nationales du monde du travail, à Roubaix, alors que dans le même temps, évidemment, les photographies des objets de grève sont conservées par le Centre Pompidou en qualité d'œuvre d'art. Enfin, mon dernier exemple portera sur une œuvre encore plus récente, ce sera ma conclusion, avec un display, mais qui lui, contrairement aux autres, est explicitement revendiqué comme tel par l'artiste. C'est pour ça que c'est écrit dans la notice de l'œuvre. C'est l'artiste Benoît Maire, et le display s'appelle « Le réel et l'impasse de la formalisation, la formalisation et le lieu de passe en force du réel, qui date de 2006 et qui a un display d'objets de nature différente, trois verres d'encre de Chine, la photographie d'un gorille, un livre dont le titre est éclairé par le faisceau d'un projecteur 8 mm, une chaise, un globe terrestre, quelques lettres de Scrabble, une paire de bottes. Un display dont on apprend par le dossier de presse qu'il est une mise en image et en objet d'une lecture d'un séminaire d'Alain Badiou de 1975, qui s'interrogeait donc sur le problème de la formalisation du réel. Donc le display est l'image de la lecture faite par l'artiste du texte d'Alain Badiou. Je ne crois pas trop m'avancer en supposant ici une approche critique ou politique du sens lui-même. Quelque chose qui fait mine de nous mettre sur une voie, celle du déchiffrement, du rébus, pour mieux nous prendre au vertige d'une collection conceptuelle dont les objets n'existent pas, et dont on pourrait se demander ce qui nous reste à nous de déchiffrer en réalité, sinon le syndrome néo-surréaliste de rendre le familier étrange et l'étrange familier. Ce que je sous-entends, c'est que ce display-là, qui est revendiqué comme display, contrairement aux autres, et qui, à mon avis, est vraiment une forme qui tend à se développer dans l'art le plus contemporain, le plus actuel, est un petit peu l'exemple le plus extrême de ce qui peut être produit à partir de ce tournant ethnographique, à partir du moment où l'ethnographe est considéré comme celui qui ne doit pas interpréter les choses, mais qui doit les collecter, qui laisserait donc un libre arbitre et une marge de manœuvre interprétative d'autant plus importante et d'autant plus grande au spectateur. Mais ce que je veux dire, c'est que, même si cet artiste-là n'en a pas conscience, il est sans doute en train de jouer avec ce type de réflexe lié à la collection et à la frontière entre l'artefact et l'œuvre d'art, pour nous signifier que c'est vraiment à nous de voir quelque chose, de comprendre quelque chose, de déchiffrer quelque chose, alors que parfois, il n'y a peut-être rien à déchiffrer. Voilà, je vous remercie.